Et je vais donc donner la prédication. Le Seigneur donc agit et le Seigneur parle et on doit déjà répondre à ce qu'on a entendu de la part du Seigneur. Quand on cherche le Seigneur, est-ce quelque chose qu'il faut dire? Eh bien, le Seigneur répond à cette parole. Quelquefois, les gens pensent qu'ils savent ce qu'il faut dire. Alors le Seigneur n'a rien à dire parce qu'ils savent, les gens n'ont pas besoin de lui, ils savent ce qu'ils doivent dire. Mais quand on cherche le Seigneur, il donne la parole qui est adaptée, qui est pertinente. Et j'aimerais donc prendre quelques versets dans Ésaïe 49. Ésaïe 49. Et une des références que je voulais faire, c'était précisément concernant cet homme à la piscine de Bethesda, c'était une des illustrations des versets que l'on va voir. Mais ici, dans le Ésaïe 49, il n'est pas question du tout de l'évangile, apparemment, mais l'évangile est pleinement dedans. L'évangile est pleinement dans l'Ancien Testament, et le Seigneur veut ouvrir nos yeux quand on lit l'Ancien Testament pour voir Jésus. Il nous est dit que Moïse avait les yeux fixés vers la rémunération, vers Jésus-Christ, c'est dit dans Hébreux 11. Il avait les yeux tournés vers Jésus. C'est pour ça qu'il a méprisé toutes les richesses, la réussite qu'il pouvait avoir sur la terre. Il aurait pu être grand en Égypte. Il aurait pu avoir beaucoup de succès. Mais il a méprisé ça. Parce qu'il voulait. Il avait les yeux, nous dit Hébreux 11, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, on doit avoir aussi les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et j'aimerais voir ici les paroles que Dieu donne à Israël au travers du prophète Ésaïe. Et ce sont des paroles que l'on doit pouvoir prononcer nous-mêmes à notre sujet. Et dans Ésaïe 49, au verset 1, on voit qu'il est dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Le Seigneur m'a appelé et m'a nommé. Il a fait référence exactement, apparemment la traduction c'est, il a mentionné mon nom. Il a mentionné mon nom. Ça veut dire qu'il connaît notre nom si nous sommes à lui. Il a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Effectivement, d'une manière générale, Dieu étant omniscient, Dieu étant tout-puissant, il sait le nom de chacun. La Bible nous dit qu'il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Pour certains, peut-être ici, c'est facile à compter. Pour d'autres, c'est vraiment compliqué. Mais le Seigneur sait toutes choses. Mais ce n'est pas là la question. C'est est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il te connaît comme son enfant? Et on voit dans ce chapitre cette relation merveilleuse qui existe entre Dieu et son peuple et que Dieu aime ses enfants d'une manière spéciale. Est-ce que on a conscience de ça? Dans ce chapitre, il est dit que Dieu a compassion de son peuple. Il a compassion comme une mère a compassion de ses enfants. Il dit, est-ce qu'une mère, elle laisse tomber ses enfants? Et en disant ça, il pense, oui, c'est vrai que c'est arrivé. Donc il dit, et même si cela arriverait, même si cela arrivait, pardon, eh bien moi je ne le ferais pas. Donc cette compassion de Dieu, cette compassion de Jésus-Christ, elle est réelle. Et cependant, nous nous comportons à son égard souvent comme s'il n'était pas compatissant. Vous savez ce que ça veut dire, compatissant, compatir et avoir de la compassion? Ça veut dire de souffrir avec. C'est-à-dire que si tu es dans la souffrance ce matin, eh bien Jésus, Dieu lui-même, souffre avec toi. Son cœur n'est pas indifférent. Mais souvent, on a cette relation avec Dieu qui est tellement distante. On a cette relation avec Dieu qui est tellement une relation du style de celle qu'on aurait pu avoir avec notre Père. En disant, il est fâché après moi, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, il est fâché après moi. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le contact? Il y a des enfants qui, toute leur adolescence ou leur enfance, essayent de trouver les comportements qui vont leur permettre d'avoir une bonne relation avec leurs parents. Et les parents sont toujours fâchés après eux. Et ils ne savent plus quoi faire. Et ensuite, dans leur relation avec Dieu, ça continue. Dieu est fâché après moi. Dieu doit être mécontent de moi. Ce n'est pas possible que Dieu soit content de moi. Mais ici, lisez ce chapitre et vous verrez la compassion de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il s'est donné lui-même, comme il a été dit, parce qu'il a compassion, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et Dieu vous aime ce matin. Jésus nous aime. Et c'est lorsque nous rentrons dans cet amour de Dieu, lorsque nous acceptons cet amour et nous pouvons dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous pouvez rentrer chez vous et dire, Seigneur, je t'aime? Pas dire, oui, Seigneur, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime d'ailleurs. Je me suis fait baptiser. Si je ne t'aimais pas, je ne me serais pas fait baptiser. Ça m'a coûté, hein, tu sais. Les gens sont froids. Dans les mariages, c'est la même chose, quelquefois. Ben oui, tu sais que je t'aime. Alors ça fait du bien à l'autre. Je suis soulagé. Le problème, c'est que les gens ne savent plus dire « je t'aime » avec quelque chose qui sort de leur personne. Parce qu'il y a tout un tas de liens, comme il a été dit ce matin, mais là, dans des liens qui sont négatifs, qui sont plutôt au détriment du bon fonctionnement. Des liens qui empêchent la personne de s'exprimer. Mais comme il a été dit, Jésus est venu pour libérer les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et une des grandes captivités que nous devons connaître en Jésus-Christ, c'est celle qui nous empêche de nous ouvrir à Christ et de dire « Seigneur, je t'aime ». Parce que, en le disant, vous allez entendre la voix, non pas de manière audible vraisemblablement, mais vous allez entendre Dieu qui dit « je t'aime ». Parce que dans un couple, il est impossible que un des deux dise à l'autre du fond du cœur « je t'aime » et que l'autre ne dise pas en retour « je t'aime ». Il y aura ce retour qui va toucher votre cœur, parce que c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Ce matin, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu qui vous dit « je t'aime ». J'ai donné ma vie et je veux faire pour toi ce que j'ai prévu. Et ici, il est dit, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Est-ce que lorsque Dieu s'adresse à vous, il vous dit « Monsieur un tel » ou « Madame un tel » ou est-ce qu'il vous appelle par votre prénom ? Parce qu'il vous connaît. Oui, je te connais. Toi, je sais que je peux t'appeler par ton nom, parce que tu es à moi, n'est-ce pas ? Il est dit aussi dans Isaïe, je ne sais plus, c'est le 43 ou 41. Au verset 2, donc Dieu m'a nommé, Dieu m'a appelé, et ensuite il est dit, tout de suite après, une des conséquences, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ça paraît étrange, n'est-ce pas ? Ça paraît étrange d'entendre ça. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que je suis connu pour blesser les gens avec ma bouche, et donc voilà, ben, j'ai une référence biblique qui me couvre. » Il n'est pas dit qu'il a rendu ma bouche semblable à un poignard. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, nous devons confesser que notre bouche a été un poignard. Ce qui sort de la bouche, ça témoigne de l'esprit qui est en nous. Parce que la parole s'exprime essentiellement au travers de la bouche, pas seulement, mais essentiellement au travers de la bouche. Et ce qui sort de nous, pas ce qui sort de notre bouche, c'est une parole avec un grand P. Et cette parole, est-ce que c'est une parole de destruction? Est-ce que c'est une parole d'édification? Vous n'avez pas besoin de répondre ça ouvertement, mais vous devez vous poser les questions. Mais ne prenez pas comme référence l'Église. Prenez la référence chez vous, à la maison. Prenez comme référence là où vous travaillez. Prenez comme référence quand vous êtes dans la voiture. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Eh bien, si vous connaissez Dieu, si vous êtes en communion avec Dieu, si Dieu vous a appelé, si vous le connaissez aussi par son nom, s'il y a cette relation d'amour, eh bien, ce qui sort de votre bouche, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1, tu l'as lu ce matin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et c'est Jésus-Christ qui sort. Et il nous est dit dans Hébreux chapitre 4 que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voilà ce dont il est question ici. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rendu ma bouche semblable à la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, vous avez cette vision du prophète. Il a une vision du ciel. Il voit la sainteté de Dieu. Il se prosterne. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il se prosterne dans la présence de Dieu. Se prosterner, c'est se plier en avant, comme ça, jusque vraiment par terre. Et cette position est essentielle, non pas nécessairement physiquement, mais dans le cœur. C'est la face contre terre. C'est vrai que dans nos églises, je viendrai là-dessus, ça change un petit peu. On ne voit pas beaucoup de gens prosternés. On voit un peu trop des gens qui lèvent la tête. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça qui compte. Est-ce que dans le cœur, on est prosterné? Mais quand Ésaïe a eu cette vision de Dieu, il s'est prosterné et il a dit « Malheur à moi, car mes lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Un des signes de la nouvelle naissance, c'est que ce qui sort de notre bouche est purifié, sanctifié. Et c'est un esprit qui sort, qui se manifeste. Et ça doit être l'Esprit de Dieu, ça doit être Jésus-Christ qui sort de notre bouche. L'apôtre Paul dit clairement dans Éphésiens, aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Il ne dit pas plus que 5% de vos paroles. Il dit aucune parole. Ça veut dire que quand ça arrive, on doit régler notre situation devant Dieu, n'est-ce pas? On a péché contre Dieu. On a laissé un autre esprit s'exprimer. À travers de nous, on a besoin du pardon de Dieu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Est-ce que ce matin, vous savez qu'il a poser sa main sur vous et qui vous couvre de l'ombre de sa main. C'est une merveilleuse parole. C'est une merveilleuse parole parce que c'est là où il y a la sécurité, n'est-ce pas? C'est là où on peut sentir la présence de Dieu, la sécurité, il n'y a rien à craindre. C'est là où vous n'avez rien à craindre. Des gens proclament « Je n'ai rien à craindre parce que je suis à Christ. » Ce n'est pas en proclamant ça, en répétant ça, que c'est vrai. Vous pouvez être sur un champ de bataille en disant « Je n'ai rien à craindre, on peut tirer sur moi, ça ne va pas me toucher, mais vous allez être tué. » Là où vous pouvez le dire, c'est si vous êtes vraiment sous la main de Dieu. Si vous allez régler votre vie avec Dieu et que vous dites « Seigneur, je veux rester sous ta main, je veux rester protégé. » C'est là où ça devient une réalité. C'est là où il n'y a rien à craindre. La main de Dieu, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je sais que la main de Dieu est sur moi. Je sais que c'est lui qui me conduit. Je sais que c'est lui qui tourne ma tête dans la direction qu'il faut. C'est lui qui agit et c'est son esprit en posant ses mains sur moi. Il met son esprit qui était en lui, et son esprit me dirige. Est-ce que nous sommes dans le creux de sa main? Vous savez qu'il y a Moïse a eu ce privilège. Vous lisez ça dans Exode 33 et 34. Comment Dieu l'a mis dans un creux de rocher sur la montagne. Et c'est là, spirituellement, qu'il veut nous amener. Il veut nous amener dans ce creux de rocher sur la montagne de Dieu. Parce qu'il est dit dans le psaume, dans deux psaumes, il est dit « Qui montera la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Et c'est là où Dieu nous met dans le rocher, dans le creux. Il a dit à Moïse « Je vais mettre ma main et je vais passer. » Comme ça, tu ne verras pas quand je passe. Et vous savez, ça a été une expérience qui a transformé la vie de Moïse. Dans le film « Les Dix Commandements », le réalisateur a bien travaillé le visage de l'acteur pour que on voit ce changement. Mais c'est ça. Les paroles de Moïse n'étaient plus les mêmes après. Son cœur était transformé par cette expérience, cette rencontre avec Dieu, par le fait que même s'il a dû sortir après de ce creux du rocher, même si Dieu a retiré sa main, il était transformé, son visage était transformé. Qu'est-ce que exprime votre visage? Qu'est-ce qui s'exprime au travers de vous? Ou est-ce que vous avez fait cette rencontre avec Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, ça y est, je sais que j'ai rencontré Dieu, je sais que je le connais, je sais qu'il a mis sa main sur moi, que je suis dans le creux de sa main protégé, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais vous savez qu'il y a une condition à ça. Il est dit dans le Ésaïe 49, toujours au verset 16, « Voici, je t'ai gravé sur ma main. » Une promesse de Dieu extraordinaire, « Je t'ai gravé sur ma main. » Si Dieu montrait ses mains ce matin, est-ce qu'il y a votre nom? Est-ce que vous êtes gravé sous ses mains? Mais vous savez bien ce qui arrivait aux mains de Jésus. Les mains de Jésus ont été clouées sur la croix. Et si vous êtes gravé sous ses mains ce matin, les clous ont transpercé votre vie, votre nom. Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça qu'on ne veut plus. On veut prêcher un évangile sensationnel, un évangile où vous vous engagez et vous verrez, la vie sera merveilleuse. Et effectivement, dans certaines églises, le dimanche matin, c'est impressionnant. On regarde et on dit, mais c'est des gens heureux. Et on voit après ce que ça donne la semaine. Il n'y a aucune différence avec le monde. Il n'y a aucune différence. L'évangile, c'est la crucifixion et la résurrection. C'est ça la parole de Dieu. Et la crucifixion, ce n'est pas celle de Jésus-Christ seulement, c'est « Je suis crucifié avec Christ ». Ça veut dire que je ne cherche plus mon nom, je ne cherche plus ma gloire, je ne cherche plus être reconnu, je ne cherche plus avoir ma satisfaction personnelle, mes droits qui sont reconnus, mais je me donne à Christ et je me laisse crucifier avec lui. C'est le seul moyen pour moi de rester sous la main de Dieu, gardé et protégé. Voilà ce qui fait que l'on peut être, qu'on peut être couvert de l'ombre de sa main. Est-ce que ce matin, vous voulez être couvert de l'ombre de sa main, de sa main? Est-ce que ce matin, on peut dire, je le suis, je veux être là? Au verset 5, je vais prendre un autre aspect, il y en a d'autres, il a fait de moi une flèche, alors ça c'est extraordinaire aussi. Est-ce que vous êtes une flèche dans le carquois de Dieu? Et Dieu peut prendre cette flèche et vous envoyer là où il veut. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut vous regarder ce matin et dire, je voudrais te demander de faire ça? Et vous allez dire, Seigneur, je suis une flèche, tu te sers de moi, tu tires et tu me envoies où tu veux. Probablement, un des endroits où va vous envoyer, c'est ici. Parce que l'Afrique n'a plus besoin de missionnaires, ou plus beaucoup besoin de missionnaires. C'est l'Europe qui a besoin de missionnaires africains. Elle a besoin de missionnaires asiatiques. Les États-Unis ont besoin terriblement de missionnaires. Ils ont besoin de missionnaires africains qui viennent pour annoncer l'Évangile aux États-Unis. C'est ça qu'on veut voir. Pas un président américain qui soit noir seulement, c'est déjà un miracle. Mais on veut voir des hommes et des femmes de Dieu qui viennent d'Afrique pour évangéliser les États-Unis qui ont besoin de Dieu. Et quand ça se passera, ce sera probablement un signe que Dieu est vraiment en train d'agir. Mais est-ce que Dieu peut vous envoyer ? Hasbrouck ici a besoin terriblement, n'est-ce pas, de hommes et de femmes qui sont des modèles, qui sont l'épée de la parole de Dieu dans cette ville, qui vont toucher, l'épée de Dieu ne détruit pas, l'épée de Dieu touche l'endroit, qui touche les cœurs et qui amène les gens à Christ. Si ce matin et si chaque dimanche matin on peut être amené à Christ, n'est-ce pas ? Si on peut partir d'ici en disant « Seigneur, oui, je veux quelque chose que je n'ai pas encore. Je veux obtenir davantage de toi. » Le dernier aspect, donc, le verset 5. « Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, il m'a formé. » Voilà un autre aspect de ce que Dieu fait. Il m'a formé. Mais peut-être ce matin, vous dites « Je suis déformé. » Comment Dieu peut-il m'avoir formé ? Je me sens déformé. Et c'est là où je voulais faire référence à deux situations du Nouveau Testament. L'une d'entre elles était ce paralytique sur le bord de la piscine de Bethesda qui était déformé. Il n'était pas comme Dieu voulait qu'il soit. Il n'était pas comme les autres autour de lui. Il était allongé sur son lit à longueur de journée. Peut-être vous dites « ce matin, je ne peux pas dire je suis formé par Dieu. Dieu ne m'a pas donné la forme que je devrais avoir. » Alors rencontrez, comme l'a dit Salomon tout à l'heure, rencontrez Jésus-Christ ce matin. Il vient vers vous pour vous dire « prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et si vous rentrez chez vous ce matin et vous dites « Seigneur, je prends mon lit et je marche. » Le lit, c'est quoi ? Ah, bien sûr, nous, on a des lits confortables. Si Jésus disait « prends ton lit et marche maintenant », il faudrait une camionnette. Parce qu'il y a le sommier, il y a le lit, il y a le matelas, etc. C'est impossible. Mais c'est quoi ce lit pour cet homme ? C'était une natte par terre et il était appuyé dessus à longueur de journée. Et Dieu et Jésus-Christ l'a rendu libre de cela. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? C'est symbolique aussi. Il a dit, maintenant, c'est à toi de porter ton lit. C'est plus au lit, à ton lit de te porter. C'est à toi de porter ton lit. Et tu t'appuies sur des choses. Tu dépends de tellement de choses aujourd'hui. Tu as besoin de toutes ces choses dans ta vie. Tu te reposes dessus à longueur de journée, jour et nuit. Et Jésus dit, lève-toi, prends cette chose, roule-la et porte-la. C'est cette chose qui doit être sur toi et pas toi sur cette chose. La Bible nous dit de ne pas nous reposer sur notre sagesse. Si vous avez de l'intelligence et de la sagesse, des compétences dans la vie, et vous reposez à longueur de journée sur vos compétences, eh bien Jésus vous dit, lève-toi et marche. Prends ces compétences, roule-les, et tu les portes sur tes épaules et c'est tout. Ésaïe 11 dit que l'esprit de sagesse et de force reposait sur Jésus. Il ne se reposait pas dessus, c'est cet esprit qui reposait dessus. Et le dernier exemple que je voulais donner d'un homme qui pouvait pas dire « j'ai été formé par Dieu », c'était cet homme dans l'évangile de Marc, chapitre 3, qui avait la main sèche. Il avait la main paralysée qui ne pouvait pas étendre. Combien il y a de paralytiques dans les églises? Combien il y a de paralytiques qui se disent, vous savez que quand on dit qu'on est chrétien et que véritablement on n'est pas chrétien, c'est comme si un paralytique disait, ah, moi, vous savez, je marche bien, je suis un grand sportif, je peux courir très vite. Personne ne va le croire. Et dans le monde, c'est la même chose. Les gens ne vont pas vous croire. Si vous dites que vous êtes au Seigneur, que Dieu a transformé votre vie, et si le témoignage qu'ils ont n'est pas celui-là. Oui, Dieu, ce matin, veut faire un miracle. Dans chacune de nos vies, il veut, comme il a dit à cet homme, un jour de sabbat, un jour du Seigneur, effectivement, il a dit, étends ta main. Ce matin, il vous dit la même chose aussi. Il vous dit, étends ta main. Sois libéré de ce qui t'handicape, de ce qui t'empêche d'être, d'agir, de ce qui t'empêche d'être formé pour faire le travail de Dieu, le travail du Seigneur. Le Seigneur est tout-puissant et il agit, et ce matin il veut faire une œuvre à nous de répondre. Peut-être on sent qu'on s'est éloigné de Dieu, peut-être on sent qu'on n'est pas dans sa volonté. Alors ce matin, c'est l'occasion de régler ça, de se mettre en règle avec Dieu et de se mettre à l'ombre de sa main. Voilà, que Dieu nous bénisse et que chez nous on puisse répondre, pas nécessairement dans l'église, c'est chez soi et tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.